Il se trouve que cette crise nous oblige au confinement, il faut à tout prix le respecter, et donc je vous remercie d'ores et déjà de votre présence. J'espère que vous allez bien toutes et tous, et qu'il en est de même pour votre entourage. Et je voudrais, avant de faire l'appel, rappeler quelques principes. Le premier, c'est de couper votre micro quand vous ne parlez pas, car le moindre bruit de votre environnement, ça peut être un mouvement de feuille de papier, pas tant très fort. De même, vous coupez vos amplificateurs, ou en tout cas le téléphone à distance, parce que ça résonne. Il vaut mieux avoir le téléphone à l'oreille, même si c'est plus pénible, ça évite les bruits de rayonnement. Si vous avez un double appel, je vous invite à refuser ce double appel, ou alors vous quittez la séance complètement. Sinon, nous allons avoir droit au bip d'attente, qui est assez insupportable pendant tout le temps de votre appel. Si vous avez un double appel, vous rejetez ce double appel, ou vous quittez le conseil municipal, quittez et revenez ensuite. Et encore une fois, si vous souhaitez prendre la parole, vous prononcez simplement votre nom, je vous donnerai la parole dès que j'en aurai la possibilité, évidemment. Alors, étant donné que je ne vous vois pas, je vais faire l'appel et je vous demande simplement de répondre présent à votre nom ou si vous représentez un de vos collègues, de le mentionner. J'ai reçu trois pouvoirs, celui de Jean-Paul Langer qui donne pouvoir à Hélène Perrin, celui de Chantal Clément qui donne pouvoir à Sébastien Durand-Soye et celui d'Aline Triolet qui donne pouvoir à Marie-Claire Billebord. S'il y en a d'autres, vous me l'indiquerez. Alors, Franck Leroy, je suis présent. Benoît Moitier.
Présent.
Pierre Marandon.
Présent.
Anne-Marie Legras.
Présent.
Jacques Fromm.
Présent.
Sandy Lheureux.
Présent.
Christian Demangin.
Présent.
Lisa Charif.
Présent.
Jonathan Rodriguez.
Présent.
Magali Carbonel.
Présent.
Catherine Crozat.
Présent.
Maurice Atanus.
Présent.
Michel Brixy.
Présent.
Claude Maréchal.
Présent.
Daniel Maire.
Présent.
Marie-Claire Billebord.
Présente. Avec pouvoir.
Présent.
Damien Gauthier.
Présent.
Jean-Michel Lorca.
Présent.
Nicole Lesage.
Présente.
Aline Triolet. Elle a donné pouvoir à Marie-Claire Billebord. Pascal Marniquet.
Présente.
Christine Bazzi.
Présente.
Joachim Verdier.
Présent.
Hélène Devilliers. Hélène Devilliers, est-elle là? Pour l'instant, elle n'est pas là. Édouard Rabon.
Présent.
Astrid Tussaud. Astrid
oui, Tussaud,
est-elle là? Ok. C'est qui a répondu? C'est Hélène ou c'est Astrid?
Oui, c'est Hélène.
Hélène, d'accord. Donc Hélène Devilliers est là. Astrid Tussaud. Voilà pour l'instant. Chantal Clément a donné pouvoir à Sébastien Durand-Soye. Sébastien Durand-Soye, précisément.
Oui, présent.
William Richard.
Bonsoir, présent.
Bonsoir. Jean-Paul Langer a donné pouvoir à Hélène Perrin. Hélène Perrin est-elle là?
Présente.
Merci. Marc Lefebvre.
Présent, bonsoir.
Bonsoir. Cindy Demange.
Présente, bonsoir à tous.
Bonsoir. Et Yuri Philippe.
Oui, présent.
Présent. Donc l'appel est fait, il a été enregistré par les services, que je remercie. Et nous allons, si vous le voulez bien, procéder au déroulement de ce conseil, qui, comme vous le savez, se déroule dans un contexte particulier. Il a des objectifs. D'abord, une présentation synthétique de l'action de la collectivité en cette période d'urgence sanitaire. Vous imaginez bien que nos services ne sont pas restés inactifs et vous avez dû recevoir tout à l'heure une note assez complète sur l'activité qui était déployée par nos services depuis le 17 mars dernier. Je voudrais tout de suite remercier l'ensemble des agents qui ont été mobilisés, que ce soit au téléphone, par télétravail, que ce soit sur le terrain, j'y reviendrai dans un instant. Ils ont su s'adapter à ces conditions particulières et je crois pouvoir dire que toutes les demandes formulées par les pharmaciennes et les pharmaciens ont pu être prises en considération dans les meilleures conditions. Nous aurons également la mise au vote de quelques délibérations portant pour les premières sur des dispositions de fonctionnement de la collectivité en période d'urgence sanitaire et pour les autres qui relèvent de la gestion courante de notre commune, mais qu'il nous faut néanmoins voter pour ne pas bloquer certaines opérations. Avant de laisser la parole aux adjoints qui vont nous parler la mise en place de nos services et de l'organisation de services en temps de confinement, je pense notamment à Candy Lheureux pour le secteur personnes âgées, à Catherine Crozat pour le public en difficulté, et également à Magali Carbonel s'agissant des écoles qui sont ouvertes pour les enfants de soignants. Je voudrais vous inviter, chers collègues, à respecter un instant de silence en hommage aux victimes de cette crise à Épernay, dans la Marne, dans le Grand Est, dans notre pays et partout ailleurs. Cette crise est avant tout un drame pour des centaines de milliers de familles, et par cet instant de silence, nos pensées les plus chaleureuses les accompagneront dans cette terrible épreuve. Je vous invite donc à respecter un instant de silence. Je vous remercie. Je voudrais également saluer l'action de nos soignants du secteur public, du secteur privé, du secteur libéral, qui font un travail remarquable depuis des semaines. Ils sont tous admirables et notre ville leur rendra le moment venu l'hommage qu'ils méritent toutes et tous. J'en profite également pour remercier tous les particuliers, les entreprises et les associations qui se sont mobilisés pour témoigner leur soutien aux soignants sous des formes très diversifiées et très appréciées. S'agissant des matériels indispensables à nos soignants, je voudrais indiquer, et ça figure dans la note qui vous a été communiquée il y a quelques minutes, que nos services se sont mobilisés pour récupérer le maximum de matériel susceptible d'être orienté vers l'hôpital et le secteur sanitaire. Nos stocks d'anciens masques testés par le CHU ont ainsi pu être transmis à l'hôpital, de même que des surblouses et toute une série de surbottes, surchaussures ou charlottes qui étaient nécessaires pour venir en aide aux hospitaliers. Nous avons également, dès les premiers jours du confinement, passé des commandes de gel qui ont pu être honorées et qui ont été distribuées vers les médecins et infirmiers libéraux. Ceux-ci se trouvaient en effet souvent démunis. Et 83 litres de gel ont pu être, de mémoire, présentés à ces médecins et infirmiers qui étaient très satisfaits de pouvoir être dépannés. Certains d'entre eux s'étaient tournés vers les pharmaciens qui ne pouvaient plus, malheureusement, les alimenter. Nous avons passé également avec les agglomérations de Reims et de Châlons, avec le département de la Marne, de l'Aube et des Ardennes, des commandes de masques chirurgicaux, 25 000 en ce qui nous concerne, qui ont été prioritairement distribués en direction des professionnels de santé qui en manquaient, ainsi qu'en direction de nos agents susceptibles d'être exposés. Je pense par exemple à nos éboueurs, à nos éboueurs, aux agents en charge de l'assainissement, aux personnes qui sont affectées aux aides à domicile, aux agents en contact avec les personnes âgées ou aux policiers municipaux, de manière à ce qu'ils puissent évidemment poursuivre leur travail en toute sécurité. Enfin, nous venons de passer une commande de 42 000 masques barrières, ville et agglo inclus, auprès de la société Chantel. Ces masques barrières seront livrés mi-mai et mis à disposition des habitants et de l'agglomération et de la ville. Ce sont des masques textiles qui sont lavables et réutilisables, donc dans les usines Chantel. Ce sont des masques qui répondent aux exigences de la catégorie 1 créée le 29 mars 2020 par notre interministériel au terme d'une démarche supervisée par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Ce sont donc des masques dédiés aux usages de catégorie 1, c'est-à-dire des usages professionnels en contact régulier avec le public, et c'est la plus haute catégorie de masques textiles agréés. Ce sont des masques qui sont testés et qui ont été approuvés par la Direction générale de l'armement. Je voudrais simplement appeler votre attention sur le fait que ces masques ne permettront pas de s'abstraire des contraintes de confinement encore existantes et ne remplaceront pas les mesures barrières. Ils les compléteront. Nous devons donc rester extrêmement vigilants et inviter tous les pharmaciens, mais également tous les habitants d'agglomération à rester attentifs aux précautions à prendre. Nous discuterons évidemment dans quelques semaines des modalités de distribution de ces masques. Vous me permettrez enfin de souligner travail produit par nos services dans des conditions totalement inédites. Vous en avez eu un aperçu à travers la note qui vous a été diffusée il y a un instant. Que ce soit pour assurer la continuité du service public municipal ou intercommunal, nos agents ont été d'un dévouement exceptionnel. J'ajoute que certains de nos agents se sont portés volontaires pour travailler à l'hôpital. Une convention a été signée entre l'hôpital et la ville conservant la charge de la rémunération de ses agents. Mais j'ai évidemment une pensée pour eux, de même que certains agents communautaires sont allés travailler, notamment à la maison de retraite de Blanc-Coteau, soutien des services de ces maisons de retraite ou de ces hôpitaux. Pour ce qui est de l'action de la collectivité, je vous renvoie à la note qui vous a été adressée il y a quelques minutes et je vais tout de suite laisser la parole successivement à Catherine Crozat pour l'aide sociale, à Candy Lheureux pour le troisième âge et les handicapés et à Magali Carbonnet pour les soignants. À l'issue de ce premier exposé, je vous proposerai une première série de questions, s'il y a des questions, et ensuite nous enchaînerons avec le rapport numéro 2. Je m'aperçois d'ailleurs à l'instant que j'ai oublié de désigner le secrétaire de séance.
Vous êtes absolument.
Le secrétaire de séance, je veux que le plus jeune membre de l'Assemblée remplisse cette fonction. Je vous propose donc de désigner Yuri Philippe, qui est en ligne, comme secrétaire de séance. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Yuri Philippe est donc secrétaire de séance. Je passe tout de suite la parole à Catherine Crozat.
Oui, merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, l'action sociale a été, a continué bien son travail, et même plus que normal. Donc, les cinq travailleurs sociaux, ont été mis en télétravail, et, un travailleur social à tour de rôle par jour répond à toutes les demandes téléphoniques. Il y a une permanence de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. Les autres travailleurs essayent de suivre au maximum à distance les personnes qu'elles accompagnent habituellement par un coup de téléphone, par tout ce qui peut être mis évidemment sans contact direct. Elle règle tout ce qui est urgent, donc notamment il y a l'aide alimentaire, on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure, mais il y a aussi toutes les ouvertures de droits qui sont encore possibles, les agents s'en occupent pour domiciliation, RSA, les dossiers d'aide sociale, et il faut quand même avouer que tous les services, que ça soit de l'État, de la région, du département, sont vraiment très, très coopératifs et répondent à tout moment à toutes les demandes et toutes les demandes. Au niveau de l'aide alimentaire, donc comme vous savez, l'épicerie sociale est restée ouverte, évidemment, plus personne ne peut rentrer dans le magasin et faire ses courses. Mais on a toujours trois agents qui travaillent en permanence avec deux bénévoles habituels qui ont voulu rester pour aider. L'épicerie reste ouverte tout le temps. La récolte des denrées s'effectue normalement auprès de nos partenaires, donc Carrefour, Lidl, Leclerc. Il y a même le collège Terre Rouge et Jean Monnet qui nous ont donné des surplus qu'ils avaient pour que l'épicerie fonctionne. Évidemment, les bénéficiaires ne font pas leurs courses comme d'habitude, mais ce sont des colis qui sont fournis en fonction de leur demande, la composition évidemment du foyer et du nombre de repas qu'ils ont besoin. On peut quand même se féliciter aussi de la banque alimentaire qui continue son travail et qui nous aide beaucoup, alors notamment dans les produits secs, mais aussi dans les produits si on a besoin en yaourt, en viande, Donc, les bénéficiaires, évidemment, comme vous en doutez, sont un peu plus nombreux parce que, le Secours populaire en donne un petit peu, mais moins. La Croix-Rouge a quelques difficultés. Les Restos du Cœur ont été fermés.
Donc, toutes ces personnes, on a des contrats avec eux, donc on a récupéré les bénéficiaires. Et donc, on a des gens qui arrivent de la Croix-Rouge, des clubs de prévention, de la CSD, de la mission locale, de FIDAS. Et on arrive pour l'instant à gérer toutes les demandes. Donc, les bénéficiaires, si vous avez des gens, les bénéficiaires, il faut qu'ils téléphonent à la MSE, ils prennent rendez-vous et on leur donne un rendez-vous. Il y a une personne qui passe à l'épicerie sociale tous les quarts d'heure. Pour éviter tout contact, une table est mise dehors et le colis est placé sur la table et les bénéficiaires prennent leur colis sur la table. Là, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Bon, on est toujours en contact avec des bailleurs sociaux, Royal Mobilia notamment, un petit peu le foyer Rémois. Mais de toute façon, pour l'instant, aucune visite de l'OCO ne peut être faite. Donc, pour l'instant, on fait que on prépare le déconfinement pour que les gens puissent proposer des logements aux personnes qui en attendent. Voilà.
Merci Catherine.
À peu près tout ce que
merci j'ai. Beaucoup. Je passe la parole à Camille Heureux.
Oui, merci Monsieur le Maire. Bonsoir à tous. Alors, nous avons mis en place, à la demande de Monsieur le Maire, une permanence téléphonique. Ce service est ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Et ce service est ouvert pour répondre aux questions et aux besoins de nos personnes âgées ou en situation de handicap. Ce service est assuré par deux de nos animatrices et nous avons eu à ce jour 360 appels depuis la mise en place. Nous avons également mis en place un registre d'appels pour les personnes les plus isolées et qui a pour la base le registre canicule, bien évidemment, ainsi que la liste du dispositif Brin de Cosette. Et également, suite aux appels qui ont été émis pour les familles et les personnes qui le demandent elles-mêmes, qui se sentent les plus isolées. À ce jour, nous avons 144 inscrits et ces appels sont faits régulièrement par deux animatrices et deux bénévoles. Je remercie d'ailleurs les bénévoles parce que c'est important, ces appels sont importants pour nous, personnes âgées. Nous avons également mis en place un service à la personne pour les courses. Les médicaments, le pain, le journal, bien sûr d'autres choses, mais il y a aussi, par exemple, les attestations pour les personnes qui n'ont pas d'ordinateur. Donc, on en a eu beaucoup. Et à ce jour, nous avons fait donc 200 listes de courses. Elles ont été livrées et je remercie les agents des autres secteurs de nous avoir aidés. Donc, il y a le secteur des sports, le service éducation. Et le service technique qui nous aide un petit peu sur les personnes âgées et le handicap. Concernant nos résidences, le Cèdre et Galice, actuellement nous avons 89 résidents qui sont également confinés, bien entendu. Nous avons supprimé le repas en collectif. Ils sont servis sur plateau directement dans leurs appartements par nos agents, ce qui correspond à 66 repas par jour. Pour les personnes qui cuisinent, les courses sont livrées soit par les familles, qui les déposent dans le hall de résidence, ou soit par notre service à leur demande. Tous les jours, la directrice les appelle au téléphone, et ça, bien évidemment, ça les rassure. Et nous avons toujours nos agents sur place pour la surveillance 24 heures sur 24. Concernant les familles des résidents, le pôle animation senior leur a demandé d'envoyer sur notre site des photos, des dessins, du courrier, et bien évidemment des vidéos pour ceux qui ont Internet. Pour les autres personnes, nous avons également mis à disposition des tablettes que nous avons achetées il y a quelques mois et quelques années pour les vidéos sur Skype ou WhatsApp en direct. Et les familles sont très contentes de pouvoir être assurées sur le bien-être de leurs parents. Concernant le service d'aide à domicile, nous avons en ce moment 115 bénéficiaires, accompagnés par 12 agents qui assurent le service à la personne et un minimum de ménage. Leur température est prise tous les matins avant de se rendre au domicile des personnes âgées. Mais bien entendu, elles sont équipées de protections nécessaires, hein, les gants et masques, donc il n'y a pas de souci. Pour l'instant, les personnes sont très contentes de ce service et nous continuons à le maintenir. Pour le portage de repas, nous avons dû mettre en place une troisième tournée pour répondre à la demande. Bien évidemment, comme les gens ne font plus beaucoup les courses, ben, ils ont décidé de nous appeler pour la livraison de repas. Donc, nous livrons en moyenne 94 repas par jour et nous avons enregistré à ce jour 30 nouvelles demandes. Voilà, je me tiens à votre disposition pour toute question.
Merci Candy, on posera les questions juste après. Je vais tout passer tout la parole à Magali Carbonel.
Oui, merci Monsieur le maire. Vous m'entendez?
Oui.
Vous m'entendez? Oui. Voilà, alors donc, en ce qui concerne l'accueil des enfants des soignants, hein, tout a été mis en œuvre depuis le 17 mars pour accueillir les enfants des soignants, que ce soit à la crèche ou à l'école. Alors, en ce qui concerne les enfants d'âge scolaire, maternel et élémentaire, les parents s'inscrivent par téléphone à la MSE, à la Maison de la Solidarité et de l'Éducation. Et il y a une coordination qui est assurée au quotidien avec l'Éducation nationale, avec donc l'inspecteur, qui met à disposition des enseignants volontaires sur temps scolaire. Alors, les temps périscolaires, bien sûr, sont assurés par les services de la ville, des animateurs, des agents d'entretien et agents de restauration. Alors, cet accueil est bien entendu complètement gratuit. Les repas sont commandés à l'hôpital et sont livrés par le service de portage des repas. Alors, au total, on a 51 enfants qui ont été accueillis dans deux écoles, Bachelin pour l'élémentaire et Horticulture pour la maternelle. En moyenne, on va dire qu'il y a au quotidien 26 enfants sur le temps scolaire, une vingtaine le matin, 23 à midi et le soir, et 18 le mercredi, puisqu'il y a accueil aussi le mercredi, c'est un temps périscolaire. Nous avons 27 agents de la collectivité qui se sont proposés volontaires pour les encadrer sur le temps périscolaire et en fonction des besoins des familles. Les premiers enfants arrivent à 5h30 le matin et les derniers repartent à 20h45. Alors, ceci, c'était pour les écoles. Maintenant, pour les crèches, pour les enfants non scolarisés, 3 ans, ils sont accueillis dans deux crèches, la Piraterie et les Petits Bouchons. Mais en sachant que depuis mardi, les Petits Bouchons ont été délocalisés au profit de Cercelin. Et les Petits Bouchons, c'est une petite crèche, il n'y a pas d'espace extérieur. Ils peuvent bénéficier donc à Tiercelin d'espace extérieur et de la salle de nutricité. Alors là, c'est pareil, les horaires sont totalement adaptés en fonction des besoins des parents. Les premiers arrivent à 5h45 et les derniers repartent à 20h30. En ce qui concerne le repas, même chose que pour les écoles, pour les grands. Et pour les petits, on leur propose des petits pots. Ou bien, s'ils préfèrent, les parents peuvent apporter le repas. Alors, au total, on a 40 enfants qui sont et on accueille en moyenne entre 9 et 14 enfants par jour, qui fait une moyenne de 11 enfants. 40 agents sont mobilisés. Alors, ils ne sont pas 40 au quotidien, hein, ils se relaient sur les sites et ne travaillent donc pas à temps plein. Et il faut savoir que nous avons aussi des agents qui se sont portés volontaires pour travailler à l'hôpital en service de pédiatrie et aussi en EHPAD. Voilà, nous avons peu de demandes pour le week-end. En ce qui concerne les crèches, lesquelles sont accueillies par des assistantes maternelles de la crèche familiale. Ce fut le cas, par exemple, le lundi soir. Voilà, donc tout se passe bien. Les enfants ont acquis assez rapidement les règles de distanciation. Et voilà, les parents sont contents de ce service qui est proposé aux enfants des soignants. Voilà ce que je pouvais dire.
Merci Magali. Je précise que nous accueillons les enfants de soignants d'Épernay et des communes environnantes.
Voilà.
Puisque, voilà, en accord avec la direction de l'académie, nous avons proposé évidemment d'ouvrir des établissements et de les ouvrir aux communes avoisinantes, puisque leurs écoles sont souvent fermées. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les différents rapports présentés, rapports d'information qui ont été et Magali Carbonel? S'il y a des questions, oui, de simplement donner votre prénom et votre nom pour poser votre question.
Monsieur Duranceau, il y a une question.
Allez-y.
Oui, bonsoir tout le monde. Une question pour Magali Carbonel. Une question que j'avais soumise par mail à Monsieur Le Maire. Les inscriptions en fait scolaires sont donc reportées, annulées pour l'instant. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire comme la le chalandier, c'est-à-dire de faire des inscriptions par mail? Parce que là, on a beaucoup de questions des parents qui s'inquiètent de ne pas pouvoir inscrire leur enfant pour la prochaine rentrée.
Oui, alors là, bon, les services sont en train, les services de l'éducation sont en train de travailler là-dessus, bien entendu. Et voilà, il est possible que ça se passe à partir d'un logiciel qui est expérimenté en ce moment. Hein. Mais on est en train, bien sûr, de réfléchir et ça va se faire d'une façon informatique, vraisemblablement.
Oui, on avait notre portail famille qui permettait jusqu'ici certains coûts d'inscription. Il est question donc d'étendre ce portail famille aux inscriptions scolaires. On travaille avec notre prestataire qui nous a fait une proposition et d'après les informations qui nous ont été données, d'ici 15 jours, 3 semaines ou plus tard, les choses devraient être réglées, c'est-à-dire que les inscriptions scolaires pourront se faire par Internet.
Bien,
merci. Y a-t-il d'autres questions?
Oui, Hélène Perrin.
Allez-y, je vous en prie.
Oui, moi j'aurais voulu savoir pour les personnes qui sont fragilisées par le chômage technique ou l'absence de travail parce qu'elles avaient des contrats précaires et qui n'étaient pas jusqu'alors suivies par les services sociaux, comment ils peuvent faire pour obtenir une aide en urgence?
Alors, je vais répondre avant mes collègues. D'abord nous appeler. Et en fonction de la nature de leurs appels, elles seront orientées vers les travailleurs sociaux qui sont en mesure de répondre à leurs demandes, que ce soit des demandes de secours, que ce soit des demandes liées à des problèmes de logement ou parfois de cohabitation, évidemment. Nous avons des permanences qui sont donc ouvertes à la MSE notamment, et nous sommes en lien, comme l'a dit tout à l'heure Catherine Crozat, avec l'ensemble des autres partenaires. Parce qu'évidemment, la CSD a en charge les personnes les plus modestes qui ont les enfants. Nous traitons plutôt les personnes modestes sans enfants, mais étant donné que nos services sociaux sont en lien les uns avec les autres, si un cas nous est soumis, il incombe à un autre, une autre administration, nous transmettons le dossier, nous assurons que la personne est tout le temps sans qu'une solution lui soit apportée.
Parce que là, s'il n'y a pas d'actualité, s'il n'y a pas de dossier, comment on construit le dossier?
Pardon?
Je dis, s'il n'y a pas d'accueil physique et au préalable pas de dossier, comment peut-on construire le dossier?
Alors j'imagine que Catherine peut répondre peut-être ou...
Oui, je peux répondre. En général, il y a donc par téléphone la personne avec le travailleur social travaille et donne... Et transmet des papiers si c'est possible, si c'est pas possible, on fait une demande d'urgence avec le département, si c'est l'épicerie sociale on sans signature, on procède à l'aide. Ça arrive beaucoup. Pour l'instant, on fait la confiance aux gens et c'est une confiance réciproque et ils ne demandent pas de signature. Voilà. Dans un délai, pour l'instant, le délai court. Après, évidemment, tout se réorganisera et on refera les dossiers complets. Là, par exemple, toutes les épiceries sociales, tous ceux qui étaient bénéficiaires en mars, ont été bénéficiaires d'office en avril, quels que soient les problèmes qu'il y ait eu. On n'a pas fait de commission. On a remis tout le monde à l'épicerie sociale. Et c'est pareil pour ceux, quand il faut faire une demande de RSA et tout ça, tout se fait normalement, même si on n'a pas les papiers.
Et l'une des difficultés qu'on a eu à gérer, c'est que la campagne des Restos du Cœur s'est arrêtée au moment du confinement. C'est pas du tout une critique à l'égard des Restos du Cœur, hein, c'est normal. Leur campagne hivernale s'est terminée, la campagne estivale, tant est qu'on puisse parler d'été pour l'instant, n'était pas encore opérationnelle. Donc on a fait la soudure avec les épiceries sociales et sous la forme de colis qui est telle qu'elle a été décrite tout à l'heure par Catherine et qui a bien fonctionné et toutes les personnes qui étaient dans le besoin ont été accueillies sans trop de difficultés. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Madame Perrin?
Oui.
Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à poursuivre donc. L'examen des rapports du Conseil est passé au rapport numéro 2 qui concerne les modalités de tenue des séances du Conseil municipal pendant l'urgence sanitaire. Chers collègues, je vous demande de bien vouloir adopter la solution qui vous est proposée pour la tenue des séances du Conseil pendant la période d'urgence sanitaire, telle qu'elle vous a été explicitée dans le rapport en votre possession. Il s'agit d'un système très simple, vous avez pu le constater, basé sur le réseau téléphonique. L'ordonnance précise par ailleurs que les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public, soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, en ce qui nous concerne, soit par appel nominal. Bien entendu, à l'issue de cette première séance, un bilan sera effectué et nous verrons s'il convient de modifier le système ou d'adopter un autre mode de fonctionnement. Et puis, le 11 mai devrait arriver assez vite. S'il y avait des réunions avant le 11 mai, nous le ferions sans doute de la même manière. Après le 11 mai, je pense qu'on aura de nouvelles règles, en tout cas d'autres possibilités que ce simple échange téléphonique. Est-ce que sur ce point, il y a des questions? Pas de questions. Alors, est-ce que quelqu'un vote contre? Si, alors on va passer au vote. Simplement, si vous votez contre ou si vous vous abstenez, vous donnez votre nom. Est-ce qu'il y a des votes contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas, donc je déduis que tout le monde vote pour ce rapport et je vous en remercie. Nous passons au vote de la délibération numéro 3 qui porte sur les modifications apportées par l'ordonnance numéro 2020-391 en matière de compétences du maire exercée en vertu des dispositions de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, afin de permettre la continuité de fonctionnement de la collectivité en cette période particulière, limitée, je le rappelle, à la durée de l'état d'urgence sanitaire. Je vous propose de ne pas limiter les compétences confiées au maire par l'ordonnance précitée. En effet, l'article 1 de l'ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales confie de plein droit au maire l'intégralité des compétences listées à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales que peut lui déléguer habituellement le conseil municipal. Ainsi que précisé dans l'ordonnance et rappelé dans le rapport, les décisions prises dans ce cadre vous seront adressées au fil de l'eau et le contrôle de légalité continue de s'appliquer sur ces décisions, cela va de soi. J'ajoute que nous adressons également une copie de ces décisions, en tout cas nous portons à leur information, ces décisions à l'ensemble des membres du futur conseil municipal, puisque nous sommes dans une période intermédiaire où aujourd'hui le futur conseil municipal n'est pas installé, donc les élus ne sont pas officiellement conseil municipal, mais pour autant, nous nous devons de leur apporter cette information parce que en temps ordinaire, ils seraient déjà installés et donc il me semble logique que cette information leur soit apportée. Avez-vous s'agissant de ces compétences, effectivement, elles sont déléguées pour la seule période de l'urgence sanitaire. J'en rendrai compte évidemment de manière scrupuleuse, mais elles sont beaucoup moins étendues que pour le président de la communauté d'agglomération ou pour les présidents de communautés de communes et de communautés urbaines, qui disposent eux de pouvoirs beaucoup plus étendus compte tenu des difficultés évidemment, qui est beaucoup plus grande de réunir des instances intercommunales avec des distances qui sont plus importantes encore et des problématiques très, très différentes des nôtres. Est-ce que sur ce rapport numéro 3, il y a des questions?
Monsieur Richard.
Allez-y, je vous en prie.
Merci, monsieur le maire. Avant d'aller directement sur cette question, juste un avant-propos et suite à votre avant-propos, si je puis dire, et vous saluez à juste titre l'action des personnels soignants, d'une manière générale, dans notre pays, ici, dans cette ville. C'est pas, bien évidemment, on se joint à cet hommage, en quelque sorte, c'est vrai, le dévouement, le haut niveau d'engagement de ces personnels qui payent d'ailleurs, pour certains, de leur vie, compte tenu de l'impréparation de notre système de santé, du délabrement dans lequel ils se trouvent et que personne, alors que ça fait plus de 14 mois que par exemple, les urgences manifestent leur mécontentement, leur demande en ce qui concerne le personnel, en ce qui concerne les moyens. Le constat global, malheureusement, on peut le faire, général, aujourd'hui, avec cette pandémie, c'est que franchement, on a un système hospitalier, un système de soins plus globalement, qui était un des meilleurs du monde il y a encore 15 ans, et qui aujourd'hui est relégué, je crois, au 7 ou 8e plan. Ceci étant dit, monsieur le maire, je ferai remarquer quand même que pour l'hôpital d'Épernay, il y a 25 lits ont été supprimés ces deux dernières années, qu'il manque, selon l'estimation des syndicats, 30 emplois temps plein, et que cet hôpital fonctionne avec 200 contractuels sur à peu près 800 personnes. C'est-à-dire que c'est quand même assez fragile tout ça. Voilà. Alors, sur le, je tenais à faire cette déclaration avant d'aller directement sur la question qui nous est posée concernant les compétences élargies. Déjà, vous aviez fait voter en avril 2014, je crois, vous êtes fait voter les pleins pouvoirs par votre conseil municipal, par votre majorité. Là, c'est la même chose. Bon, vous prenez soin de préciser que c'est pendant la période d'urgence, parce que de toute façon, avec l'installation du nouveau conseil, lorsque les nouveaux élus seront investis, là, de manière officielle, obligatoirement, ce genre de délib reviendra devant le conseil municipal. Mais pour ce qui nous concerne, nous nous abstiendrons de vous confier tous ces pouvoirs, parce qu'il y a quand même, même s'il y a des urgences, on voit très bien que les questions qui nous sont soumises ce soir n'ont pas d'urgence particulière. Elles ne sont pas à un mois près. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et donc, sur ces questions, on s'abstiendra parce que, encore une fois, c'est une restriction ou enfin dire un affaiblissement du rôle du conseil municipal, puisque le maire peut faire tout ce qu'il veut ou prête. Avec la seule obligation, c'est de le dire après coup. Voilà. Alors, dans la dernière, je reviendrai sur certains aspects de cette application dans le. Lorsqu'on sera aux questions diverses, enfin pas les questions diverses, lorsqu'on regardera toutes les décisions prises ou les engagements pris par le maire, en vertu des pouvoirs qu'il avait jusqu'à 15 jours à l'ouverture de la campagne électorale, puisque ces dispositions tombaient de fait.
Merci. Alors, une réponse que je vous apporte, cette délégation de compétences au maire par le conseil municipal correspond au droit commun, c'est-à-dire que en temps ordinaire, dans la quasi-totalité, pour ne pas dire dans la totalité des communes de France, il y a des pouvoirs qui sont délégués au maire, tout simplement parce que, par exemple, quand il faut rester en justice, quand il faut prendre des décisions sur les arrêtés municipaux, quand il faut souscrire un emprunt pour avoir discuté avec les banques, etc., on ne peut pas à chaque fois réunir le conseil municipal, parce qu'entre le moment où on convoquerait le conseil municipal et le moment où on signerait l'accord avec la banque, les taux auraient changé dans l'intervalle. Donc il y a des moments où il faut pouvoir que l'exécutif, c'est-à-dire le maire, puisse faire face à un certain nombre d'obligations. C'est pourquoi, après chaque élection du maire, ce type de rapport est proposé au conseil municipal et il en fera de même quand le prochain conseil municipal sera installé. La différence qui se passe, c'est qu'effectivement, nous sommes dans un état d'urgence sanitaire et que le Parlement, à une très large majorité d'ailleurs, et peut-être même à l'unanimité, a voté des pouvoirs spéciaux pour cette période particulière, parce que vous pensez bien qu'il est un peu plus compliqué de réunir des conseils municipaux. Nous avons encore la chance, nous, d'avoir le téléphone qui passe, mais imaginez en certaines communes rurales ou dans zones blanches parfois, ce genre de réunion ne peut pas avoir lieu de manière très difficile, et qu'il ne fallait pas bloquer les dispositifs de décision des élus locaux, des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale. Donc c'est pourquoi cette disposition très particulière, qui est très limitée dans le temps, est adoptée. Il va se faire que je souhaite, comme vous, qu'on revienne à un régime de droit commun le plus vite possible. Ça signifiera qu'on est sorti d'urgence sanitaire et ça nous permettra évidemment d'avoir un fonctionnement plus normal. S'agissant de vos propos concernant la politique hospitalière, j'ai pas l'envie de polémiquer sur le sujet.
Non, c'est pas une polémique, monsieur le maire.
Non, mais il y a une forme de polémique, mais je ne vous en veux pas.
Vous avez des
positions, vous avez le droit d'exprimer des positions politiques, vous les avez constamment exprimées. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que la plupart des systèmes de santé des pays touchés sont pris à défaut. Pourquoi? Parce que très probablement que certains d'ailleurs pensent que les chiffres qui avaient été donnés, les indications qui avaient été données par le régime chinois n'étaient pas forcément les bons et aux bonnes dates. Résultat, tout le monde a été pris de court. Je pense qu'il y aura un moment pour débattre de ces questions, pour tirer les enseignements collectifs et très certainement pour repenser le système hospitalier d'une manière générale, public ou privé. Il faudrait quand même souligner un point qui est tout à l'honneur du système de santé français, c'est que même si nous avons été pris de court pour un certain nombre de matériels, pour le reste, nous avons su créer des milliers de places de réanimation en très peu de temps, c'est-à-dire que nos services ont été extrêmement agiles, et par exemple à Épernay, puisque vous avez cité l'hôpital d'Épernay, des services complets ont été transformés, déménagés, de manière à pouvoir accueillir des malades qui souffrent du Covid-19, et tout ça s'est fait en un temps record. Donc, quelque part, même si notre système de santé souffre d'un certain nombre de lacunes, et cette crise l'a évidemment démontré, pour le reste, il y a eu quand même une capacité d'adaptation des soignants et des organisations qui est assez remarquable, et ça me donne l'occasion à nouveau, et je suis persuadé que tous les membres de l'Assemblée partageront mon point de vue là-dessus, que nous devons rendre un coup de chapeau à toutes les équipes sanitaires, qu'elles soient du public, du privé, les équipes libérales, etc., qui ont fait le job et qui ont assuré, et parfois, on l'a vu avec des masques qui venaient d'enseignes d'équipements sportifs, enfin, il y a eu des trésors d'imagination, de débrouillardise et de système.
Voilà, système
de sauver des vies au bout du compte.
Oui. Monsieur le maire, voilà. Si vous me permettez juste un mot, il n'est pas question de... Je rappelle simplement des données qui sont des données que vous connaissez en étant membre du conseil de surveillance, que votre adjoint de M. Moitié connaît également, concernant l'affaiblissement. Après, sur le dépouillement, etc., j'ai moi-même, dans ma famille, eu l'occasion de le faire à travers cette crise. Donc, je pense, et on le sait toujours, que le personnel, en règle générale, beaucoup plus de la reconnaissance obligatoire. Alors, concernant la délib, on s'attendait bien sûr à votre réponse, et c'est la raison pour laquelle nous nous abstenons, nous ne votons pas contre. Merci.
D'accord. Alors, sur ce rapport, y a-t-il d'autres questions?
Moi, je rejoins la position de M. Richard et je m'abstiendrai également.
D'accord. Donc, qui vote contre? J'entends aucun vote contre. Donc, je note deux votes d'abstention. Vous votez également pour monsieur Angers,
oui,
je suppose. Hein.
Pour monsieur Angers, oui.
Donc, j'ai trois votes d'abstention. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Oui, madame Demange.
Madame Demange.
Pour les mêmes raisons que monsieur Richard.
D'accord. Donc, quatre abstentions. Pas d'autres abstentions? Donc, les autres sont réputés avoir voté pour. Et je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 4 et je passe la parole à Jacques Prost.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose d'approuver l'avenant à la convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville d'Épernay par l'ajout d'une fiche action supplémentaire et l'extension du périmètre de l'opération de revitalisation du territoire. Il s'agit d'inclure l'îlot de la friche urbaine que constitue l'ancienne maison des associations et de créer ainsi un quatrième secteur d'intervention. Je vous rappelle que le premier secteur correspond au cœur de ville, le second secteur au futur quartier des Berges de Marne, le troisième secteur à la Coulée Verte, le parc de loisirs Roger Menu et l'avenue Paul Chambon. La fiche action et le nouveau périmètre sont détaillés dans le rapport en votre possession et vous voudrez bien ainsi autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant à cette convention.
Merci. Y a-t-il des demandes d'explication sur ce rapport? La proposition d'élargissement du périmètre a été soumise à l'ensemble des partenaires de l'Action Cœur de Ville qui ont tous approuvé cette décision. Le conseil communautaire avait eu l'occasion de le faire juste avant le démarrage de la période de confinement. Est-ce qu'il y a néanmoins des questions sur ce rapport? Oui, allez-y, j'en prie.
Pas des questions, mais juste de dire que cet agrandissement du périmètre, ça permet à une entreprise de toucher de l'argent public. Et on trouve pas ça très juste dans le sens où elle a déjà eu un plus grand dérisoire parce que justement il y avait des travaux à faire. Voilà.
Alors. Une réponse, Madame Perrin. Le projet qui a été présenté par le CDER est un projet extrêmement ambitieux qui vise à transformer une friche, parce que c'est une friche aujourd'hui, en bâtiment tertiaire, présentant en matière de rénovation thermique des performances tout à fait exceptionnelles et devenant même un bâtiment à énergie positive. Le CDER aurait pu se contenter de faire des travaux tout à fait ordinaires pour isoler le bâtiment sans plus. La volonté du CDER, c'est de démontrer à travers cet investissement que un bâtiment a priori en friche et a priori voué à la démolition peut devenir un bâtiment ultra-performance pour le plan de manière à devenir un exemple pour d'autres entreprises, d'autres investisseurs qui pourraient demain, plutôt que de construire en périphérie des villes et consommer du foncier, se dire qu'on peut, même dans des friches, arriver à faire des bâtiments ultra-modernes et ultra-performants avec un bâtiment existant qui date des années... fin des années 50 ou début des années 60, et qui, a priori, aujourd'hui, est un, a priori, est aujourd'hui une passoire énergétique. Donc, c'est la démarche qui est, comment dire, soutenue. Pourquoi? Parce que ce bâtiment, s'il peut être engagé dans sa rénovation thermique, deviendra quelque part un démonstrateur qui pourra donner l'envie et l'idée à d'autres investisseurs de faire la même chose avec des anciennes usines désertées, avec des anciens bâtiments abandonnés, comme il y en a des centaines, voire des milliers, dans la région Grand Est. Donc, c'est la raison pour laquelle la région a confirmé son soutien au CDER, estimant que la démarche était tout à fait exemplaire et s'inscrivait totalement dans l'esprit du Pradet, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui vise notamment à faire en sorte qu'on consomme beaucoup moins d'espace qu'on a consommé depuis des décennies et qu'on s'attaque aux friches et qu'on démontre que des friches sont transformables plutôt que, comme on l'a fait trop longtemps et comme on l'a fait depuis des décennies encore une fois, qu'on continue de consommer de l'espace foncier et laisser au milieu des villes ou des villages des friches qui restent parfois des dizaines, voire des 20 ou 30 ans. Donc, c'est la démarche qui est soutenue, c'est pas spécialement le CDER, certes, ça profitera au CDER, mais c'est cette démarche tout à fait innovante et exemplaire que la région en Grand Est souhaite soutenir et a sollicité pour ce faire l'élargissement du périmètre de l'opération Cœur de Ville. Je rappelle que l'opération Cœur de Ville a pour objectif aussi de ramener les flux cœur de ville, de l'activité économique et de l'habitat. En l'occurrence, c'est de l'activité économique puisque des créations d'emplois sont prévues dans le cadre de l'extension de ces locaux du CDER. Y a-t-il d'autres questions?
Oui, monsieur Richard. Tout ce que vous dites et vous nous le dites à chaque fois, nonobstant, quand vous nous avez présenté la vente du bâtiment et le bas coût de ce bâtiment, vous nous aviez dit que c'était justement parce qu'ils avaient un projet innovant et que de ce fait-là, on n'avait pas vendu au prix le bâtiment. Donc là, ça fait encore de l'argent public qui vont aller à cette entreprise, alors que dès le départ, son projet était identique.
Non, Madame Perrin, d'abord, c'est pas une entreprise de CDER, c'est une association. C'est une association qui rassemble 17 000 agriculteurs, viticulteurs et autres, qui est au service de ces associations. Donc, c'est une association loi 1901. Donc, il ne faut pas se tromper sur le statut. Ensuite, le geste que nous avons fait sur la vente de l'immeuble était lié aux contraintes de démolition et à la nécessaire démolition d'une partie du bâtiment. Là, c'est pas nous qui apportons de l'argent supplémentaire, c'est la région qui apporte de l'argent supplémentaire. Donc, faut pas dire que le contribuable pharmacien paye deux fois cette opération. Nous avons vendu effectivement ce bâtiment à un prix inférieur au prix des domaines, mais nous l'avons justifié par l'importance des démolitions qui devraient être réalisées dans ce bâtiment et la difficulté de cette opération. À travers l'élargissement du périmètre, nous permettons simplement à la région de venir soutenir également ce projet, parce que à l'échelle de la région Grand Est, ce projet est tout à fait exemplaire. Donc c'est pas deux fois la ville qui fait le geste, c'est la ville qui a fait un geste en direction du CDER. Cette fois, c'est la région qui va le faire, et pour ce faire, elle nous a simplement demandé d'élargir le périmètre d'intervention. Mais pour autant, nous ne mettrons pas un centime de plus dans cette opération qui nous concerne. Et Nathan Rodriguez a demandé la parole.
Et monsieur Richard. Oui,
merci. Merci, monsieur le maire. J'allais répéter ce que vous venez de dire sur le prix de vente qui n'était pas un cadeau, qui était justifié par le fait qu'il y avait des travaux, puis notamment de désamiantage, qui justifiait un prix qui était au marché, mais avec soit on assumait nous-mêmes le coût, on le vendait plus cher, soit on faisait porter le coût par l'aménageur qui sera le CDR. Après, je soutiens évidemment l'extension de ce périmètre qui permet d'intégrer ce projet de rénovation importante pour le centre-ville, parce que on a ici le positionnement d'une entreprise, d'une association avec des salariés en tout cas, qui maintient en plein cœur de ville et qui sera bénéfique évidemment à son commerce et à son attractivité, puisque ces personnels, ces salariés vont aller consommer, se nourrir, la pause déjeuner, quand on pourra accéder au restaurant, lorsqu'il sera rénové. Et en plus, évidemment, la qualité environnementale est là, puisque on a l'isolation du bâtiment, on a le positionnement de l'énergie solaire, on a la couverture végétale, on a des recours à des matériaux biosourcés, on a aussi la reconquête d'une friche aujourd'hui. Donc on est vraiment sur les objectifs qui sont affichés par le plan climat qu'on a adopté il y a quelques semaines de ça lors du conseil communautaire. Donc je suis évidemment favorable à cette extension.
Merci Jonathan. Je voudrais rappeler effectivement, et Jonathan a eu raison de le dire, que le CDR avait pour projet initial de quitter le cœur de la ville pour aller en périphérie. Ce qui évidemment aurait été une autre problématique à gérer. C'est quand ils ont pris connaissance de la possibilité de réinvestir l'ancien bâtiment de la maison des associations, ils ont revu leur projet, qui leur coûte d'ailleurs beaucoup plus cher que ce qu'aurait coûté un projet de construction neuve en périphérie. Hein, donc il faut prendre ça en considération, c'est pas neutre. Et encore une fois, le bâtiment est amianté, et qu'il fallait en tenir compte, sinon nous aurions dû nous-mêmes procéder aux travaux de désamiantage avant de vendre le bâtiment désamianté au CDER. Donc, dans la mesure où notre prix a baissé, le CDER a pris en charge les frais de désamiantage, ce qui n'est pas un cadeau, encore une fois, ce qui est simplement la fixation du prix tenant compte des contraintes de désamiantage des bâtiments. Monsieur Richard.
Merci, monsieur le maire. Oui, j'entends bien toutes ces explications et on voit de un petit peu plus clair, parce que loi 1901, mais c'est une association à but non lucratif. C'est la première précision que j'aimerais avoir. Et puis quelques remarques sur à partir des documents qui nous sont transmis, parce que le CDER. Donc je lis. Le CDR, il va accueillir un établissement recevant du public. Salle de séminaire, salle de réception, hein. Donc, c'est-à-dire que, et construire de l'habitat, accueillir de l'habitat. Ça veut dire qu'il y a des objectifs de rentabilisation de ce bâtiment. J'en ferai pas le reproche au CDR, hein. Je considère que c'est une entreprise, certes, qui au départ a un statut particulier. Mais donc, c'est quelque chose, c'est un projet ambitieux, comme vous le dites, c'est un projet ambitieux, mais je doute que le business plan fait, ou en tout cas le calcul concernant l'investissement et le retour sur investissement, même si c'est sur 10, 15 ou 20 ans, ils seront là. Et comme vous dites que ce n'est pas un cadeau parce qu'il fallait nécessairement les alimenter, etc., pour vendre, ceci étant, il y avait peut-être d'autres options que la vente. Mais, quoi qu'il en soit, le deuxième avantage était un passage obligé. Simplement, rappelons quand même que le CDR l'a acquis à 41% du prix initialement fixé par le domaine. Voilà. Bon, sur ce dossier, je m'abstiendrai.
Merci. Y a-t-il des votes contre? Le vote contre, y a-t-il des abstentions en plus de celle de M. Richard?
Deux en plus.
D'accord, donc j'imagine celle la vôtre et celle de M. Angers?
Exactement.
Y a-t-il d'autres abstentions? Pas d'autres abstentions, donc le rapport est adopté. Nous passons au rapport numéro 6 et je donne la parole à Christian de Mangin. On n'a pas fait le rapport 5. Ah pardon, le 5 effectivement. J'avais déjà tourné la page. Le rapport 5, effectivement, et je passe la parole à Jacques Prom. Excuse-moi, Jacques.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose, suite à l'adoption par le conseil municipal du 21 janvier 2020 du contenu de l'OPHRU, d'autoriser le maire ou son représentant à solliciter un cofinancement de la part de la communauté d'agglomération Épernay, Coteaux et Plaines de Champagne dans le cadre des subventions accordées pour la rénovation de logements inclus dans le périmètre de l'opération.
Alors évidemment, cette opération s'inscrit dans le cadre du PLH, le plan local d'habitat qui a été adopté par le Conseil communautaire. L'objectif est de lutter contre la vacance des logements, la précarité énergétique et l'habitat dégradé et favoriser le maintien à domicile. Le total des travaux que nous ambitions de mener est de 3 460 000 euros d'aide sur 5 ans aux propriétaires, 37,5% venant de l'ANA, 25,7% de la ville, 22,8% de l'agglo et 14% de la région. Donc c'est un financement dans le cadre de l'action Cœur de Ville, puisque notre agglomération est co-signataire de la convention Action Cœur de Ville et qu'elle dispose de la compétence d'équilibre social de l'habitat. Donc nous sollicitons par ce rapport un soutien de l'agglomération. Y a-t-il des questions? Pas de questions, des oppositions? Pas d'opposition, des abstentions. Le rapport est donc adopté. Je vous propose le rapport numéro 6 et je passe maintenant la parole à Christian de Mongin.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, la région Grand Est s'est engagée à contribuer au financement des travaux du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale sur la période 2017-2021. À hauteur de 25% du montant éligible sur la base d'une convention cadre du 2017-2021. Toutefois, chaque année, une convention financière doit être définie afin de préciser les éléments financés sur la base des estimations annuelles liées au projet de rénovation du musée. Cette année, la subvention sera de 191 411 euros, comme indiqué dans les documents. Je vous propose donc d'accepter les termes de la convention financière 2020 avec la région Grand Est et d'autoriser le maire ou son représentant à la signer.
Merci Christian. Je rappelle que le montant de l'aide totale de la région Grand Est pour le musée sera de 4 570 000 euros, ce qui en fait le premier financeur après la ville, évidemment, de ce musée. Quelques informations sur le chantier du musée qui, comme vous pouvez l'imaginer, a été stoppé immédiatement l'ordre de la décision de confinement, ce qui était logique. Selon les informations dont je dispose, le chantier devrait reprendre lundi avec quelques entreprises qui sont en capacité de retravailler, bien entendu, en veillant au respect des recommandations qui ont été écrites dans un cahier des charges spécial par le ministère du bâtiment et des travaux publics, mais l'activité sera ralentie pour quelques semaines encore. Certaines entreprises venant de loin, certaines entreprises venant de Belgique, amenant des équipements venant de Belgique, ce qui n'est pas facile compte tenu de la fermeture des frontières et des contraintes liées aux différents droits du travail existants dans les pays européens. Nous avons bon espoir que le chantier reprenne un rythme normal d'ici quelques semaines, mais en tous les cas, avant le 11 mai prochain. Y a-t-il des questions?
Monsieur le maire, si vous me permettez une question incidente, hein, qui n'est pas directement sur ce rapport que je vote. C'est juste vous faire part, pas vous poser une question. Hier, j'étais deux personnes m'ont téléphoné, là, qui habitent dans le centre-ville, et pour me demander s'il était normal que les gars qui sont en train de tirer la fibre, hein, les gars qui travaillent, déjà d'une part, est-ce que ce type de travaux est autorisé et que d'autre part, il n'y a aucune protection.
Alors,
ceux qui sont dans la rue générale, ceux qui sont dans le centre-ville en ce moment et qui tirent les câbles de fibre.
Alors, premièrement, oui, ce genre de travaux est autorisé puisque on ne peut pas faire de la pose de fibre en partie de travail. Et donc, les entreprises de travaux publics, les entreprises de travaux publics, déploie la fibre en ce moment et croyez-moi que cette fibre elle est attendue par tous les gens qui travaillent. Je
sais bien.
Mais donc il est important que la fibre soit déployée en ce moment. S'agissant des conditions de travail, c'est la responsabilité de l'entreprise qui agit pour le compte d'Orange, puisque c'est Orange qui déploie la fibre à Ethernet. Je pense que les organisations syndicales, les CHSCT, les entreprises se sont réunies. En même temps, pour certains agents, il n'y a pas forcément nécessité de porter un masque dans la mesure où ils ne sont pas confinés tous les deux dans une chambre technique. J'imagine qu'il y a des process de déploiements qui se sont mis en place pour que les deux ou trois agents qui sont sur un chantier comme celui-ci ne soient pas en contact rapprochés les uns par rapport aux autres. Et dans ce cas-là, le masque n'est pas obligatoire.
Oui, ce sont des Sparlésiens qui ont pris le temps de me téléphoner hier en fin de journée, parce que moi-même, je les avais pas vus. J'étais pourtant descendu faire ma petite promenade pour acheter mon journal, comme dirait l'autre. Et je les avais pas vus, ces gens-là. Et ils travaillent. Et donc, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, quelque part, exprimaient une inquiétude. Pour les travailleurs eux-mêmes, mais ça peut être aussi en disant, oui, mais voilà, ces gens-là, voilà, il y a, qu'on le veuille ou non, il y a une anxiété sur la population par rapport à ce Covid-19, la transmission, etc. Voilà, c'était, moi je posais la question, alors en même temps, c'est la responsabilité des entreprises, etc. Tous ces parce qu'il y a eu plusieurs cas de confinement dans la région parisienne, ont cessé le travail pendant 15 jours, 3 semaines, et elles ont obtenu, mais en même temps, c'est la santé de leurs salariés, et en même temps, c'est aussi la santé des pharmaciens, parce que ces gens-là peuvent être. Voilà. Et donc, il y a des exceptions qui ne se comprennent pas. Est-ce que c'est essentiel, vital, pour les prochaines semaines dans la vie du pays? Non. Voilà. Par contre, c'est mon commentaire, c'est pas celui que je voulais faire au départ.
Bon, juste un mot pour vous répondre. D'une part, c'est la responsabilité de l'entreprise et du donneur d'ordre. Deuxièmement, encore une fois, le masque n'est pas systématiquement exigé parce que pour certains, le masque n'apporte rien. Maintenant, je respecte l'inquiétude des voisins, des pharmaciens qui peuvent se dire, mais ces gens se mettent en danger, etc. Non, encore une fois, lorsqu'il n'y a pas d'échange et proximité, le virus ne peut pas se transmettre. Et ils ont pour autant des gants, alors qu'ils ne sont pas les gants habituels, mais qui sont les gants de chantier, etc., qui préservent en partie ces ouvriers. Mais on verra évidemment, et je le signalerai à Orange, qu'ils s'assurent bien que les entreprises qui travaillent pour eux dans le déploiement de cette fibre le fassent dans les meilleures conditions de sécurité. C'est ce que nous pouvons tous souhaiter. Y a-t-il sur ce rapport d'autres questions? Pas d'opposition? Y a-t-il des abstentions? J'en déduis que tout le monde vote pour ce rapport. J'en arrive au rapport numéro 8 qui concerne les décisions. Le numéro 7, Joachim Verdier.
Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Dans le cadre de la réalisation du programme de réfection des chaussées 2020, nous sommes amenés, comme les années précédentes, à délibérer sur le projet d'effacement des réseaux préalablement aux travaux de voirie. Alors, je vous rappelle que ce sont les travaux qui consistent à effacer les réseaux électriques, les réseaux de télécommunications, ainsi que l'éclairage public. Les rues concernées cette année sont la rue du colonel Pierre Charvania, entre la rue Simone Caguet et la rue Champion, la rue Louis-Saint-Churchill, qui accompagne bien sûr les travaux de la maison Champagne-Paul-Roger, la rue Gambetta, l'avenue du 8 mai 45 dans sa section rue François Donal, rue Thomas Van Bergen, ainsi que la rue Louis-Jean-Bromouette, sur la section entre le chemin de la ferme de l'hôpital et l'avenue du Général Marguerite. Dans la délibération, vous disposez de tout le détail financier qui représente une enveloppe de 570 000 euros pour un budget global des voiries cette année sur 2020 d'environ 2 200 000 euros.
Merci Joachim. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en entends aucune, donc j'en déduis que le rapport est approuvé par tout le monde. Il nous reste le rapport numéro 8, qui est un rapport traditionnel, on en a parlé tout à l'heure, qui est un rapport de compte-rendu de décisions prises par le maire en vertu des dispositions de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Avez-vous des explications à demander sur ces décisions sachant que certaines d'entre elles concernent, je le dis tout de suite, des manifestations reportées ou annulées du fait de la crise sanitaire, à l'exemple, par exemple, de la délibération, enfin, la décision numéro 57 portant sur la Champagne en fête. Certains contrats comportent une clause prévoyant une annulation en cas de force majeure, ce qui est le cas pour une pandémie. Dans la mesure du possible, les prestations sont reportées l'an prochain, mais nous examinons évidemment ces questions au cas par cas. S'agissant du musée, nous avons deux types de décisions. D'une part, des marchés subséquents retenant un prestataire pour une intervention d'études ou de restauration de certains équipements des collections. D'autre part, des avenants à des marchés déjà attribués, et ces avenants représentent un surcoût de 169 474,24 €. Donc voilà quels sont les éléments que je voulais donner en introduction de ce rapport, mais je vous laisse, si vous le voulez bien, m'indiquer qui prend la parole et surtout sur quel point vous souhaitez prendre la parole. Monsieur Lefebvre.
Oui. Merci, monsieur le maire. Donc, dans le dernier document envoyé par monsieur Lherbré, vous parlez donc concernant la décision 77 sur la passerelle, vous parlez d'études pour 1 130 725 hors taxes. Et puis, dans la décision 77, vous parlez de conception et de suivi pour 1 468 320. Alors, je voulais savoir si c'était la même chose, l'étude et la conception et suivi ou autre chose. Ensuite, vous appelez ça forfait provisoire. Donc, cela pourrait-il changer? Et puis, d'autres questions à ce sujet. Vous parlez de 4 équipes qui étaient sollicitées pour un appel d'offres. Quelles étaient ces 4 équipes? Quand a été effectué le choix pour cette passerelle? Et quelle a été la composition du jury? Merci, monsieur le maire.
Alors, effectivement, ce point numéro 77 est un point important, puisque c'est la décision que nous avons prise de choisir le projet de Rudy Ricciotti, architecte connu par ailleurs pour certaines réalisations spectaculaires, pour la réalisation de cette passerelle. Ce choix, il a été fait, j'ai plus les dates en tête, mais j'ai autour du mois de janvier de mémoire, avec un jury qui avait été désigné par le conseil municipal, dans lesquels siégeait un certain nombre d'élus municipaux, dont William Richard, l'opposition, et un certain nombre de techniciens, des représentants de l'Ordre des architectes, des représentants de la SNCF. J'ai plus en tête la composition exacte du jury, mais je pourrais vous la faire parvenir. Donc ce jury s'est réuni, a statué après avoir examiné d'abord toute une série d'offres, en avoir écarté certaines d'entre elles, il en restait 4 de mémoire à la fin, et nous avons choisi le cabinet Ricciotti. Le choix qui a été fait, une phase de négociation s'est ouverte, puisque il fallait évidemment, et c'est la règle, qu'une négociation s'engage entre le maître d'ouvrage et l'équipe d'architectes retenus. Cette phase a permis au cabinet Ricciotti de préciser un certain nombre de points sur lesquels des questions lui avaient été posées, et les réponses qui ont été apportées par le cabinet Ricciotti ont satisfait aux exigences de la collectivité. Donc tout ça s'est passé de manière parfaitement claire. Alors c'est vrai que le temps électoral d'une part et le confinement derrière sont venus troubler un peu les choses, et la décision qui aurait dû intervenir probablement un peu plus tôt a perdu un peu de temps en route. Mais les conditions étaient quand même très particulières. Il était devenu compliqué de traiter ce dossier au cœur de la campagne électorale, pour la raison que vous imaginez, et que il nous fallait poursuivre les négociations concernant le travail du cabinet Ricciotti, un certain nombre de précisions sur le projet, puisque le jury avait, non pas émis des réserves, mais en tout cas avait demandé sur un certain nombre de points, je pense, histoire de niveau entre, si vous voulez, sur la future passerelle. Je crois que vous avez dû avoir des documents qui vous ont été adressés aujourd'hui sur cette passerelle. Il était prévu une différence de niveau entre la circulation et la circulation. Et certains avaient jugé que cette différence de niveau était un peu trop importante et risquait d'entraîner des chutes et donc des blessures. Donc sur ce point et sur d'autres, le cabinet Ricciotti a revu sa copie pendant cette phase de négociation comme c'était souhaité. Donc cette décision correspond donc à un marché pour la conception et le suivi de la passerelle Passe-Quartier. Alors, j'ai pas forcément les éléments sur lesquels vous vous fondez à l'instant, parce que j'ai pas tous les documents sous les yeux. Moi, j'ai le document du conseil municipal, mais vous faites état d'une différence. Hein, c'est ça?
Ouais, dans le document de monsieur Lombré, il y a marqué étude.
Donc, figure dans le rapport qui est en votre possession.
Oui, donc l'étude fait partie de la conception?
Bien sûr. À mon avis, oui, ça fait partie des prestations du cabinet. Hein. Il y a une conception et suivi, puisque le cabinet d'architectes, non seulement met au point, réfléchit au projet, le met au point, le présente à la collectivité, assure le suivi de sa construction et suivi de sa pose. La pose étant l'un des cas les plus compliqués, puisqu'évidemment, il va falloir installer cette passerelle au-dessus des voies SNCF, d'où la présence d'un représentant de la SNCF au jury de concours pour s'assurer que la technicité et la compétence étaient à côté du cabinet RSOTI pour s'assurer que au moment de l'installation de cette passerelle au-dessus des voies, il n'y aurait pas de difficulté particulière.
Donc le bon chiffre, c'est 1 468 000 et le 1 130 000 hors taxe, c'est pas le bon chiffre.
Eh ben, c'est peut-être la différence entre le hors taxe et le tout taxe, parce que le 1 460 000, c'est bien du TTC, hein.
Ça fait une taxe à 30%, 29%, donc c'est pas ça.
Écoutez, moi, je me réfère au seul rapport que j'ai sous les yeux, qui est le rapport que vous avez en votre possession, c'est le numéro 77. Si vous le souhaitez, je vous ferai parvenir une note explicative pour cerner la différence qu'il peut y avoir entre les deux montants que vous indiquez. Mais pour moi, c'est ce montant-là. Hein.
D'accord. Non, mais c'était le montant de 1 130 000, c'est sur les documents publiés quelques jours par M. Montré.
Alors, je n'ai pas ces documents sous les yeux, donc je ne peux pas vous contredire, malheureusement.
D'accord.
Bon, je vous fais une petite note à tous pour que les choses soient claires, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sujet. C'est M. Richard qui demande la parole, je pense.
Oui, merci M. le maire. Je voudrais juste apporter comme précision, parce que j'ai eu la chance, l'honneur, en même temps, c'est de participer à ce jury de concours. C'est un concours. Et donc, pour précision à notre ami Marc, les concours, il y a un certain nombre d'équipes qui sont préalablement retenues, ensuite elles travaillent, celle qui a choisi, elle a gagné le gros lot, et les autres touchent une indemnité, perçoivent une indemnité. Et donc là, les études, effectivement, font partie de l'ensemble de la prestation. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'excuse d'un côté. Par exemple, si ça avait été un AMO, assistant maître d'ouvrage, comme il y a eu d'ailleurs, si ça avait été un AMO, c'est autre chose. Donc là, non, c'est normal. Moi, justement, j'avais une question qui n'était pas, j'ai pas de souci par rapport au numéro 77. J'ai une remarque à faire. C'est le numéro 72. Vous concluez un marché pour le désamiantage de la chaussée avec l'entreprise Eiffage. Donc, le reste, alors, on doit arrêter une entreprise, hein, peu importe laquelle. La question que je me posais, c'était, quel type de marché? Est-ce que ça avait répondu à un appel d'offres, etc.? Parce que, si j'ai bien compris, ce que dit, le règlement, la loi même, c'est que, à partir de l'ouverture de la campagne, et c'était déjà ouvert, vous n'aviez plus possibilité de pouvoir élargir, quoi. Je vois qu'il y a seul...
Non, là, il n'y a pas de difficulté. C'est un marché qui a été passé dans le cadre des travaux de désamiantage de l'avenue Gérald Marguerite. Ce sont des travaux qui étaient prévus au budget. Il se trouve que nous savions et ce qui a renchéri cette opération, que la chaussée, le revêtement de chaussée de l'avenue Gérald Marguerite était amianté en partie. Dans ce cas-là, il y a la chantier de désamiantage qui précède les travaux. Et pour votre information, ces travaux devraient commencer début mai, dans la mesure où il nous faut préalablement terminer le chantier qui est actuellement stoppé à avenue Paulbert pour éviter que, notamment pour les gens qui vont à l'hôpital, et c'est important en ce moment, il y a deux des principaux accès de l'hôpital soient fermés. L'avenue Paulbert, donc, il reste environ une semaine de travail sur l'avenue Paulbert. Dès que l'entreprise aura repris le travail, elle pourra donc terminer et rétablir l'accès à l'hôpital à partir de l'avenue Paulbert. Et à ce moment-là, on pourra engager les travaux de désamiantage de l'avenue Gérald Marguerite.
D'accord.
Y a-t-il d'autres questions?
Oui, Madame Demange.
Allez-y, je vous en prie.
Dans le numéro 78, pour le prêt des salles, je vois le 12 et 19 mars, l'espace jeune pour votre équipe, je pense que c'est votre équipe de tous engagés pour Ethernet, votre équipe municipale.
Attends, il y a un numéro combien, vous dites?
Alors, le 78, la page de droite. Hein.
La page de droite, oui, c'est ça, ça doit être ça.
Tout en haut de 18h à 22h.
Oui.
C'est ça, c'était pour votre équipe municipale?
Oui, puisque ça correspond au nom de notre équipe municipale, donc je suppose que c'est cela.
Bon, ce qu'il y a eu ce 19 mars, c'est vu qu'il y a eu qu'un tour, les comptes de campagne sont arrêtés le 15.
Dans l'hypothèse où il y aurait eu un deuxième tour, je pense que la réservation de la salle avait été faite pour jeudi 12 et jeudi 19 mars, mais qu'en réalité, effectivement, le 19 mars n'a pas eu lieu pour les raisons que vous savez. Le confinement est arrivé dans l'intervalle, la réunion aurait de toute manière été annulée. Donc c'est simplement parce que la convention devait être signée à l'époque avant le 12 mars, évidemment, et qu'à l'époque, on ne pouvait pas imaginer qu'il n'y aurait qu'un tour, et qu'a fortiori, qu'il y ait un confinement derrière.
D'accord, donc il n'y a eu que le 12 mars.
Oui, tout à fait. D'autres questions?
Oui, sur Madame Demange.
Oui, je vous en prie.
Oui, merci. Donc pour conclure le conseil. Oui. Donc pour conclure le conseil, j'avais plusieurs questions dont vous avez répondu ce soir. Avoir un récapitulatif des actions faites par la ville, donc on l'a reçu juste avant le conseil.
Oui.
Je vous remercie. Avez-vous évoqué l'ouverture de la piscine municipale pour le personnel soignant qui commence à se faire dans beaucoup de communes afin qu'ils viennent prendre leur douche et se changer avant de rentrer chez eux? Avez-vous évoqué cette ouverture de la piscine?
Non, la question n'a pas été évoquée. Il se trouve que j'ai des échanges quotidien, voire plutôt même deux fois par jour avec le directeur de l'hôpital. J'ai évidemment pris soin de lui poser un certain nombre de questions sur les besoins de l'hôpital et des personnels en matière de soutien. C'est ainsi que des personnels sont allés travailler à l'hôpital, c'est ainsi qu'on a pu apporter du matériel, tout ce qu'on a pu collecter, on l'a apporté à l'hôpital. Mais il n'y a pas eu de demande de fait à ce niveau-là. Si évidemment la demande était faite par l'hôpital pour les soignants, nous étudierions immédiatement cette possibilité, mais je vais me rapprocher de lui et voir si effectivement ça lui paraît pertinent ou pas.
Très bien, et juste une dernière petite chose.
Oui.
Bah, puisque nous avons fait le conseil municipal en audioconférence, retransmis en direct sur un lien YouTube, je salue cette initiative et qui j'espère pourra durer après le confinement.
Il n'y a pas de raison, effectivement, que ça ne dure pas après le confinement. C'est une forme ou c'est une autre, hein. Un lien YouTube ou une autre solution, mais effectivement, permettre aux pharmaciens qui le souhaitent de suivre les rapports des échanges du conseil municipal, c'est toujours une bonne chose. Pas d'autres questions? Bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je lève la séance. Je vous remercie pour votre discipline parce que, comme vous avez pu le constater, ça a été assez facile de mener cette réunion. Assez compréhensible pour tous, je l'espère. Et évidemment, je continuerai à vous tenir informé de l'ensemble des dispositions qui sont prises par la ville en cette période de crise. Je vous invite à aller consulter régulièrement le site internet ou la page Facebook de la ville où toutes les informations sont mises à jour quotidiennement. Et puis, on va évidemment commencer à songer à la phase de déconfinement, ce qui nous amènera à donner de nouvelles informations régulièrement. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si là, je m'adresse à chacun des conseillers municipaux. Si vous entendez parler de situations complexes, de situations difficiles, ce qui est tout à fait possible, n'hésitez surtout pas à nous en faire part de manière à ce que nous puissions apporter des réponses adaptées à chacun dans la mesure de nos possibilités. Et si ça n'est pas nous, ça peut être certains de nos partenaires, le département, la région ou d'autres autorités qui interviennent également, je pense à l'État, sur le territoire d'Épernay en ce moment particulier. Je vous transmettrai également des informations concernant les mesures que l'agglomération va prendre prochainement. Nous aurons très certainement un conseil communautaire assez prochainement pour
notamment venir en aide aux entreprises qui sont en difficulté. Nous y travaillons actuellement avec la région Grand Est, qui est très investie dans le dossier avec l'État, avec la Banque des Territoires, avec les départements et l'ensemble des EPCI de la région Grand Est. L'objectif étant de mettre à disposition, à côté du fonds de solidarité prévu par l'État, le fonds de garantie de l'État, toute une série de dispositifs d'aide pour faire en sorte que, après la crise sanitaire, la crise économique que nous allons traverser soit la moins douloureuse possible et laisse en tout cas sur le carreau le moins le plus petit nombre possible d'entreprises. Merci à tous de votre participation et à très bientôt.